Europe Soir Weekend. Stéphane Place. Les grandes voix.
Jusqu'à 19h, le débat des grandes voix du samedi avec ce soir la journaliste politique Laetitia Krupa, Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP et notre spécialiste des questions européennes en ligne de Bruxelles que je suis ravi d'accueillir ce soir, Isabelle Horry. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir. Bonsoir.
Au sommaire Bonsoir. Ce soir, un douloureux rappel sur la menace terroriste qui pèse toujours sur notre pays. On en parlait il y a quelques instants avec Gilles Kepel, l'attaque mortelle hier à l'hôtel de police de Rambouillet. Une fonctionnaire de 49 ans, maman de deux adolescents, a perdu la vie. Que doit-on faire pour mieux protéger notre police, ciblée régulièrement ces dernières années? Et puis de toute évidence, ce sujet va être au cœur de la prochaine campagne présidentielle. Nous parlerons aussi à J-2 du retour en classe des élèves de maternelle et du primaire, de l'accélération de la campagne vaccinale en France, alors que les variants indiens notamment suscitent l'inquiétude. Et puis nous évoquerons ces nouvelles mesures de quarantaine pour tous les passagers en provenance de 5 pays dont le Brésil et l'Inde. Suffisant ou pas? On prendra enfin de l'altitude grâce à Thomas Pesquet et ses coéquipiers qui se sont arrimés ce matin à la Station Spatiale Internationale.
Stéphane Place, les grandes voix.
Et l'on commence tout de suite par cette attaque qui s'est donc produite hier à Rambouillet et qui a coûté la vie à une fonctionnaire de 49 ans. Laetitia Krupa, première question. On en parlait avec Gilles Kepel il y a vraiment quelques minutes. Très clairement, ça réinstalle la question de la menace terroriste au cœur du débat politique français.
Évidemment, vous avez raison, le politique est mis face à la répétition de ces actes. Je vous rappelle quand même cet attentat à la préfecture de Paris en octobre 2019 et puis l'attaque du commissariat de Rambouillet. Le problème, c'est que c'est du terrorisme low cost, hein. On le répète souvent parce que finalement, ce sont des individus qui passent totalement sous les radars de la justice et du renseignement et qui, à la faveur d'un endoctrinement plutôt rapide, et on le sait via les réseaux sociaux, décide de passer à l'acte. Or, le problème dans ces actes terroristes, c'est un terrorisme low cost, mais le symbole est puissant, puisque là, vous avez vu qu'il s'attaque à une policière dans l'enceinte d'un lieu, d'une institution qui est censée garantir l'ordre. Donc, le choc des symboles des lieux décuple, si vous voulez, le retentissement de cet acte qui, finalement, est un acte isolé. Et le politique est face à ce dilemme, parce que finalement, ça pourrait être traité comme un fait divers. On sait qu'il a crié à la Wakbar, mais c'est encore une fois un acte isolé. Or, le symbole de cet acte est décuplé et le politique doit absolument apporter une réponse au peuple qui se retrouve dans un sentiment d'insécurité.
Laetitia Krupa, alors juste l'expression terrorisme low cost, je rappelle quand même le drame de Magnanville en 2016, un couple de policiers assassinés, le CRS Xavier Jugelet tué sur les Champs-Élysées en 2017, l'attaque, vous l'évoquiez, au sein de la préfecture de police en 2019, trois policiers et un agent administratif avaient succombé au coup de couteau de l'un de leurs propres collègues. Malheureusement, le bilan, il n'a rien de low cost. Oui. Frédéric Dabi, vous êtes directeur général de l'IFOP. La question qu'on posait là à l'instant, ça va cristalliser quand même le débat politique malgré la pandémie.
Mais je vais vous dire, c'est déjà cristallisé, c'est déjà largement cristallisé. Les Français ne perçoivent pas du tout ça comme un terrorisme low cost, mais comme un sentiment de déjà-vu avec toute la litanie que vous venez de citer, ce qui installe une critique d'impuissance des pouvoirs publics. N'oublions pas, on vient de publier une enquête sur les 4 ans d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Et un des sujets sur lesquels son bilan est jugé le plus négatif, ce sont la question de la délinquance et la question du terrorisme. Et on est dans un contexte où le schéma, j'ai envie de dire mortifère, de 2002, où pour la première fois, la sécurité avait été la première motivation de vote, on sait comment ça s'est terminé, s'installe. On vient de publier une enquête sur les thèmes prioritaires des Français, elle sera réactualisée demain dans le journal du dimanche. Premier thème, la santé, parce que le Covid écrase tout, impose sa cadence. Puis l'éducation, parce qu'il y a une vraie inquiétude, mais juste derrière, devant le chômage, devant le pouvoir d'achat, devant tous les autres sujets, s'installe la question de la délinquance au sens large, insécurité d'un côté, terrorisme de l'autre. Et très clairement, par rapport au passé, il y a une double rupture. Premièrement, c'est de moins en moins clivé gauche-droite. C'est un sujet qui concerne
plus transversal.
Tous les Français, qui est beaucoup plus transversal. Deuxièmement, les Français associent ces actes non pas à des questions de moyens, des questions quantitatives, mais à une insuffisante réponse pénale.
Plus sur la délinquance. Ce que vous voulez dire, c'est que même si on annonce des moyens supplémentaires, des recrutements supplémentaires,
c'est sur la justice qu'on sent que le bas blesse. Et c'est vrai que cette litanie inquiète les Français et clairement, dans un contexte où Marine Le Pen est bien installée, bien sûr, soyons prudents, à un an de l'élection présidentielle, où il y a clairement une émergence, Xavier Bertrand qui tape, et c'est son rôle, sur le bilan insuffisant du gouvernement en la matière, c'est une zone de risque pour le président Macron.
Alors, en l'occurrence, il y a eu d'ailleurs des réactions politiques assez virulentes, c'est-à-dire que on sent bien que ce thème-là va susciter ce que vous décrivez à l'instant, quoi.
Oui, il y a vraiment un avant et un après. Et vous citiez le cas des deux policiers, du couple de policiers de Maillanville. Il y a un avant et un après 2016. Lors de la séquence terrible de 2015, les Français gardaient leur confiance à l'égard du couple exécutif de l'époque. C'était François Hollande et Manuel Valls. Et la série de 2016, Maillanville, Nice et l'assassinat du père Hamel, je parle de l'attentat de Nice du 14 juillet, a vraiment fait basculer les perceptions sur le fait que le gouvernement n'est pas à la hauteur, et le changement de gouvernement, l'arrivée d'Emmanuel Macron, n'a pas changé les choses, et c'est un des rares thèmes sur lequel Emmanuel Macron est associé à un sentiment d'inaction en décalage complet avec les autres thématiques, ou plutôt les Français ont l'impression qu'il prend ce sujet à bras le corps.
Je vais profiter de la présence de
Stéphane. Oui. Excusez-moi, juste pour réagir, il y a aussi un autre thème qui s'invite dans ce débat, parce que vous avez raison, l'insécurité, c'est le thème immédiat, puisque c'est concret, les gens voient cette réalité et donc ont ce sentiment d'insécurité et le manifestent dans les enquêtes d'opinion. Mais quand vous regardez les réactions du monde politique, il y a aussi tout un positionnement particulier, un focus sur le thème de l'immigration non contrôlée, puisque cet homme était arrivé en situation irrégulière, on le rappelle, il y a 12 ans, voilà, et qu'il venait d'obtenir une carte de séjour valable un an, et c'est cette question qui n'est pas réglée, et c'est vraiment... Alors souvent on dit que le régalien est l'angle mort du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il me semble que plus particulièrement encore dans cette question du régalien, l'immigration a complètement été sous-traitée par le président de la République. Il avait tenté d'ouvrir une séquence, mais celle-ci a été balayée par la crise des Gilets jaunes. Et depuis, on n'entend plus Emmanuel Macron sur ce sujet. On ne sait pas quelles sont les prochaines grandes directives dans la politique de l'immigration pour la France, pour en tout cas la fin de son quinquennat. Bon, bah, c'est trop tard. Mais s'il se représente, c'est absolument urgent de se positionner et de raconter aux Français, de dire aux Français quelles seront ces directives et ces mesures.
On marque une pause, les grandes voix, et on vous retrouve pour évoquer cette fois-ci la situation épidémique. Un quatrième vaccin en France à partir d'aujourd'hui, le Johnson & Johnson. De nouvelles professions prioritaires pour recevoir l'AstraZeneca. Et puis les quarantaines, 10 jours en fait, imposées aux voyageurs venant du Brésil ou d'Inde, entre autres.
Stéphane Place, les grandes voix.
Les grandes voix avec Frédéric Dabi, le directeur général d'Ipsos, Laetitia Krupa, journaliste...
IFOP,
oh pardon,
c'est pas grave, ça reste en famille.
Bien sûr, IFOP, mais directeur général, il y a eu promo. Avec également Laetitia Krupa, journaliste politique, et puis Isabelle Horry, qui est en ligne de Bruxelles et qui est notre correspondante pour Europe 1, spécialiste des questions européennes. Isabelle, on va aborder ce que j'évoquais il y a quelques instants, c'est-à-dire le renforcement des mesures pour lutter contre la propagation du Covid, et notamment ces mesures de quarantaine, de surveillance de frontières. Est-ce qu'il est complètement illusoire de les mettre en place si elles ne se font pas réellement à l'échelle européenne? Est-ce qu'il n'y a pas un trou énorme dans la raquette tant qu'on n'arrivera pas à davantage harmoniser les mesures?
Si, vous avez tout à fait raison, il y a un problème de ce côté-là. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de compétence au niveau européen sur ça. Donc l'Union européenne, tout ce qu'elle peut faire, ce sont des recommandations aux États. Et donc du coup, avec ces recommandations, finalement, elles sont plus ou moins suivies. Chacun fait ça à son rythme. Alors, regardez par exemple, le Portugal avait interdit les vols en provenance du Brésil et puis ils les ont réautorisés. Donc chacun fait en fonction de sa politique intérieure. Donc vous avez raison. Ici, la Commission européenne passe son temps à dire ben, ça serait bien de se coordonner. Il y a des règles. Il faut quand même se rappeler que depuis le mois de mars 2020, donc ça fait un an, les voyages touristiques en provenance du reste du monde sont interdits. Donc les gens qui arrivent de ces zones, ce sont des gens qui font ce qu'on appelle des voyages essentiels, c'est-à-dire qui viennent pour le travail, ce sont des étudiants, des gens qui viennent voir leur famille. Mais même là, on se rend compte qu'il faut limiter. Je vous donne un exemple. En Belgique, il y a vraiment il y a un peu de colère parce qu'il y a une vingtaine dizaines d'étudiants indiens qui sont arrivés et qui ont donc la version indienne du Covid, le variant indien. Et ces étudiants, eh bien, ils avaient transité par l'aéroport de Roissy. Alors les autorités belges disent en fait qu'ils ont été testés négativement en Inde à leur arrivée et même à Paris et même à leur arrivée en Belgique. Mais malgré ça, eh bien, ils ont quand même développé ce variant indien une fois arrivés en Belgique. Donc c'est vraiment très très compliqué et il y aura pas, c'est pas possible parce que juridiquement il n'y a pas de loi européenne qui permet que tout le monde fasse la même chose. Donc ne rêvons pas, ça n'arrivera pas.
Quand vous dites qu'il y a de la colère autour de ces
situations exceptionnelles, loi exceptionnelle, hein. Ouais, on vit quand même une crise qui
mais bien
inédite.
Sûr, mais
donc,
ça, écoutez,
cet
c'est
argument
pas à
de
Bruxelles.
Dire il n'y a pas de mesures législatives, je trouve qu'il est un peu facile et c'est Emmanuel Macron s'est complètement trompé puisqu'il a attendu une gouvernance européenne en étant sûr qu'on allait s'harmoniser sur les mesures et dans les faits aucun pays n'a réussi à s'entendre avec l'autre et tous les pays ont pris des mesures à l'échelle nationale. Mais donc la France arrive encore en retard dans cette histoire.
Oui, mais si j'écoute bien ce que dit Isabelle Horry, la pierre ne peut pas être jetée qu'à la France. Et à un moment, il faut quand même que tout le monde se mette vraiment autour d'une table avec l'intention d'harmoniser.
Non, mais ils se mettent. Ils se mettent autour d'une table, mais comme de la même manière qu'Emmanuel Macron a pris ses propres décisions quand d'autres avaient pris des décisions à d'autres moments en fonction de la colère de leur opinion publique, parce que finalement c'est un peu ça qui se passe. Eh bien, vous dites on peut faire une loi exceptionnelle. Non, parce que qui va l'imposer? Enfin, excusez-moi, il y a une loi, il faut que ça existe en droit, il faut que ça soit écrit, il faut qu'il y ait une compétence. Ça n'est pas le cas. Donc pour l'instant, ça ne repose que sur la bonne volonté des 27 pays membres de l'Union européenne qui se mettent à table. Alors ils viennent se mettre à table. Chacun arrive avec sa conviction que sa méthode est la meilleure. Et donc la France arrive par exemple en pensant que ce qu'elle fait, elle, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais je peux vous dire que c'est la même chose pour la chancelière allemande, c'est la même chose pour le chancelier autrichien, c'est la même chose pour le premier ministre italien.
Bon, on n'y arrivera
pourquoi
jamais.
Est-ce que...
l'illustration de la cacophonie européenne.
Mais
malheureusement.
Pas du tout.
L'illustration
que la santé, jusqu'à cette pandémie, était une compétence que les États voulaient garder pour eux. Alors, on peut le déplorer. Je pense que si on avait eu cette conversation il y a 3 ans, vous m'auriez dit, mais évidemment, la France doit garder cette compétence. C'est pas à Bruxelles de décider ce qu'on doit faire en matière de santé. On se rend tous compte en ce moment qu'on vit dans un espace commun. Les structures ne sont pas en place. On est en train d'apprendre en marchant. Et donc, pour la prochaine pandémie, tout le monde prépare. Tout ça est en train sera mis en place. Mais on ne peut pas inventer des législations. Et en plus, il y a des régimes, il y a des pays dans lesquels tout ce qui est parlement, délibération, c'est beaucoup plus important qu'en France où on a l'habitude d'avoir un président
pour la prochaine
de la
pandémie. On aura exactement les mêmes problèmes donc pour la prochaine pandémie.
En tout cas, on ne souhaite pas qu'il y en ait une prochaine et on espère que d'ici là, l'harmonisation deviendra concrète. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, est-ce qu'en étant dans cette situation-là, l'Europe ne risque pas encore de démontrer dans l'opinion publique finalement une forme de faille coupable? On l'entend dans la réaction de Laetitia Krupa d'ailleurs.
Je dirais que l'opinion... J'entends le raisonnement très juste d'Isabelle Horry, mais l'opinion publique dans nos enquêtes qualitatives est plutôt sur la ligne que vient de décrire Laetitia Krupa en termes de cacophonie, en termes de faillite. N'oublions pas Stéphane qu'avec cette crise, l'opinion publique, c'est réseau socialisé. Elle va beaucoup plus vite, elle regarde beaucoup plus ce qui se passe en dehors des frontières, elle est beaucoup moins hexagonale. Et c'est vrai que dans le discours que les Français nous restituent, ils citent la Grande-Bretagne, ils citent Israël, ils citent même les États-Unis sur la capacité à vacciner rapidement. Ce n'était pas un modèle en termes de gestion de la pandémie, notamment au moment des années Trump, mais très clairement, l'Union européenne qui peine à exister, qui existe seulement lorsqu'on la voit dans une version un peu hugolienne de la France en grand, ce qui n'est pas le cas, dans un contexte où Emmanuel Macron est plutôt bien jugé sur ses relations avec l'Union européenne, l'Union européenne a été vu comme l'homme malade de cette crise, si je puis dire. C'est-à-dire, elle est apparue inefficace, elle est apparue incapable de parler d'une seule voix. Et la question de la livraison des vaccins, c'est un peu le discours des Français sur les masques vis-à-vis des pouvoirs publics pendant le printemps 2020. Donc on a des jugements extrêmement sévères. Et quand on interroge les Français sur l'enjeu prioritaire au cours des prochaines années, la question de l'intégration européenne arrive en dernier, comme si les Français se plaçaient dans une posture d'exit vis-à-vis de ce que l'Europe pourrait leur apporter, ce qui est quand même particulièrement fâcheux.
Ça, oui, quand on commence à dire exit, voilà.
Oui, j'ai pas dit Brexit,
j'ai dit
exit.
Mais ça nous renvoie quand même un peu à cette idée-là. Petite pause, les grandes voix, avant de décoller vers l'infini et au-delà. Toy Story, vous avez la référence, j'espère. Hein. Mais là, c'est avec Thomas Pesquet qu'on va gagner la stratosphère.
Stéphane Place. Les grandes voix.
Les grandes voix ce soir, Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, Isabelle Horry, notre spécialiste des dossiers européens en direct de Bruxelles, et bien entendu Laetitia Krupa, journaliste politique. J'imagine, et ça va nous faire du bien un peu d'en parler, de prendre de l'altitude, que vous avez tous été un peu fascinés quand même par ces images de l'arrivée de l'équipage dans la Station Spatiale Internationale, équipage commandé par un Français, Thomas Pesquet, mais qui fait le voyage quand même avec une navette SpaceX, une société fondée par Elon Musk, et une société privée sans laquelle peut-être les vols spatiaux américains, en l'occurrence, n'auraient pas repris. Qu'est-ce qu'il faut tirer de tout ça ? Des images de rêve avec une communication parfaitement réglée, ou finalement ce constat qu'aujourd'hui la conquête spatiale, et c'est peut-être pas une mauvaise chose d'ailleurs, mais passe par une société privée qui s'appelle SpaceX ?
Alors, je pense que pour les Français, c'est d'abord un formidable dérivatif hein, dans un contexte si compliqué, un contexte si plombé, avec cette crise sans fin, avec cette incapacité à se projeter. Moi, je vois aussi à quel point Thomas Pesquet s'installe comme une personnalité hors du commun, préférée des Français. Il était au mois de fin décembre 2020, 11e dans le top 50 des personnalités IFOB JDD qu'Europe 1 connaît bien. Et il suscite deux types. Déjà, c'est une personnalité à part dans ce classement. Il se rapproche de personnalités hors normes qu'a connu le top 50, comme Haroun Taziev, comme l'abbé Pierre, comme le commandant Cousteau. Et puis, il se cite une double proximité. D'abord, une proximité identificatoire pour ce qu'il est, quelqu'un qui est simple, sympathique,
on
modeste.
On a envie de lui ressembler, quoi.
Exactement. Et une proximité admirative pour ce qu'il fait. Donc, il cumule quelque chose qui n'est, en temps normal, jamais cumulatif pour une personnalité, quelle qu'elle soit.
Alors, Isabelle Horry, quand vous regardez ce Français qui arrive dans cette station spatiale internationale, je le disais, avec un vaisseau affrété par SpaceX, l'européenne que vous êtes, elle ressent quoi ?
Alors déjà, moi, je voudrais vous dire quelque chose, c'est que ce n'est pas un Français qui va dans la Station Spatiale Internationale, c'est un Européen, parce qu'en fait, Thomas Pesquet, il va en tant que représentant de l'Agence Spatiale Internationale.
Vous avez parfaitement
raison, Isabelle. Il appartient au corps des astronautes européens, et pour revenir au sujet précédent, vous voyez, quand l'Europe fait quelque chose de bien, en fait, on n'en parle pas, on dit que c'est un Français. Eh bien, je voulais juste dire qu'il n'y allait pas en tant que Français.
C'est moi qui
non, non, mais globalement, depuis qu'on parle de Thomas Pesquet ces derniers jours, on insiste beaucoup sur ça, mais je voulais justement rappeler la dimension européenne et bientôt il y aura un Allemand à l'automne, une Italienne en 2022. Je pense qu'on en parlera moins parce que voilà, on se focalise sur l'aspect français. Alors pour revenir à votre question, vous avez raison, hein, c'est vrai que voilà, l'Europe envoie des astronautes dans l'espace, mais il n'y a pas de base spatiale, il n'y a pas de... En Europe, l'Europe, elle s'est concentrée jusqu'à présent plutôt sur des programmes scientifiques, aussi sur les satellites comme Galileo, par exemple.
Alors, le vol de vendredi, hein, on l'a tous suivi, il a permis de réutiliser un propulseur qui avait été utilisé lors d'une mission test non habitée. Et c'est une première. Laetitia Krupa, ça veut dire que désormais, il faut d'abord gérer le coût des vols spatiaux, surtout quand on s'appelle Elon Musk en l'occurrence, et que bah, c'est de l'argent privé. Et puis, bah, tant mieux, on fait attention, on recycle.
Exactement, ça s'appelle un coup de communication ultra gagnant parce que bien sûr que en prônant ces valeurs écologistes, c'est de l'image, voilà, c'est du bonus, hein, bonus d'image pour Elon Musk, si tant est qu'il en ait encore besoin. Mais ce sont aussi des valeurs qui sont véhiculées au grand public et c'est un peu le rôle, la mission, hein, si pour reprendre les termes scientifiques de Thomas Pesquet aussi, c'est d'être ambassadeur pour une multitude de causes. Quand vous voyez toutes les causes qu'il sert déjà. Cet homme, du haut de ses 43 ans, c'est vrai qu'il est un excellent vecteur de communication parce que, comme l'a dit Frédéric, il est porteur uniquement de valeurs positives. Et ça, en communication, c'est du pain béni. Et la révolution, je trouve, moi, dans ce voyage-là que l'on suit tous, c'est la révolution numérique. Parce que grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube ou l'Agence spatiale française, l'Agence spatiale européenne, on leur chaîne, on suit minute après minute cette épopée dans l'espace. Je trouve que c'est absolument génial, inclusif, et vraiment je trouve que c'est un excellent exemple qui pourrait peut-être faire des petits, hein, au niveau national, pourquoi pas, en politique, on pourrait s'en inspirer.
Et il faut rappeler que pour un jour tutoyer l'espace, il faut d'abord s'autoriser à rêver à l'aérien, hein, parce que ça passe en général par là, par des formations de pilotes. Isabelle Horry, quand vous voyez tout ça, est-ce que c'est une question que je me suis posée, moi. Vous ne vous dites pas, mais on est capable d'aller à 400 km de la Terre avec tout ce que l'on vient de décrire et qu'on ressent, hein, d'enthousiasme, Et aujourd'hui, on est confronté à un virus qu'on ne peut même pas distinguer et qui paralyse complètement l'activité humaine sur toute la planète. C'est paradoxal, non ?
Oui, c'est paradoxal. En même temps, c'est deux choses qui sont complètement sur un niveau différent. Mais en même temps, regardez, même face au virus, la science a fait des choses absolument incroyables puisqu'on a réussi à créer un vaccin en quelques mois, là où on nous disait qu'il fallait des années et des années pour des vaccins. Donc même face au virus, je trouve qu'il y a une forme de génie humain dont on peut aussi s'inspirer.
C'est ce que vous ressentez, Frédéric Dabi ? C'est ce que ça veut dire aussi ?
Oui, ça veut dire, ça montre la force humaine, de l'œuvre humaine et la capacité d'être malgré tout extrêmement fragile. Hein. On connaît la phrase de Paul Valéry, hein, « Nous autres civilisations savons que nous sommes mortels », il avait écrit à la fin de la Première Guerre mondiale, période de force mais période de fragilité, au moment où il y avait une épidémie terrible aussi, qui était la grippe espagnole. Et on a ce va-et-vient, cette ambivalence où des êtres humains extraordinaires et malgré tout une certaine fragilité face à ce virus.
Est-ce que dans l'opinion publique, puisque vous en êtes un spécialiste en tant que directeur général de l'IFOP, ça remet la science et les progrès scientifiques vraiment au centre des ambitions, des envies, peut-être des vocations ?
Alors, clairement oui. Et ça peut paraître surprenant. Qu'est-ce qu'on voit depuis un an et demi ? On a quand même vu des controverses entre hommes de science. On a vu la ligne Raoult, la ligne X, la ligne Y.
On a découvert que la science n'était pas dépourvue d'ego.
Voilà, il y avait de l'ego, il y avait des controverses, il y avait parfois des voix discordantes qui ont beaucoup perturbé les Français. Pour autant, on vient de les interroger sur les acteurs en qui ils ont confiance pour contribuer à l'avenir de demain. Les scientifiques restent en tête, alors que les politiques sont plus que jamais en bas de tableau.
Laetitia Krupa, sur un plan plus politique, quand on voit finalement que c'est SpaceX qui rend possible ce vol, en tout cas qui en est l'acteur majeur, important, ça veut dire aussi que le politique peut plus s'attribuer, les pays peuvent plus s'attribuer, en tout cas pas au même degré, le succès de la conquête spatiale. Demain, ce seront des entreprises qui pourront dire « voilà où on est arrivé, voilà ce qu'on a réussi à faire ».
Oui, mais il faut voir aussi le côté positif, c'est-à-dire que grâce à cette combinaison, on met fin au monopole russe. Donc c'est aussi, il faut voir toujours les progrès qu'on peut faire en incluant davantage l'entreprise dans la vie publique, la vie collective. En fait, je vais vous poser la question autrement, Stéphane. Quels sont les inconvénients de cette alliance-là ? Quel est le problème ?
Ah, mais j'ai pas dit que j'en voyais un, moi.
Quel est le problème, là, actuellement ? Voilà. C'est pour ça qu'en fait, je préfère me poser cette question, me dire que ça participe d'un progrès collectif, qu'effectivement cela marque un tout petit peu la marche au pas du politique, en tout cas dans le domaine, mais ce qui ne veut pas dire que demain il n'y aura pas un sursaut et que ça ne va pas être générateur, au contraire, d'une nouvelle impulsion politique dans la conquête de l'espace. Moi, je ne vois que, pour l'instant, des points positifs.
Merci beaucoup. Peut-être que le seul point négatif, Isabelle Horry ne me contredira pas, c'est qu'on n'est pas un SpaceX européen. Ça, c'est encore un autre débat, une autre question. Merci beaucoup, les grandes voix. Laetitia Krupa, journaliste politique, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Et Isabelle Horry, notre spécialiste des dossiers européens, qui était en direct de Bruxelles. Cela nous a fait extrêmement plaisir que vous soyez parmi nous, Isabelle, et votre éclairage était passionnant. On se retrouve demain, les grandes voix, dans un instant, le journal de 19h.
Stéphane Place, les grandes voix.